suis papa de deux enfants. Mon objectif, là, c'est de faire le Vendée Globe 2024. La chance de faire déjà deux tours du monde à la voile en équipage. C'est largement accessible et t'es capable de le faire. J'aime bien relever des défis, donc je voulais relever celui-là. Donc Handicap Agir Ensemble, c'est le, tu vois, c'est le fil conducteur, quoi.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marceau, produit et réalisé par Audiotactique.
Je suis propriétaire d'un IMOCA, franchement, ouais, ça me paraît complètement fou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode du podcast Quête de Globe. C'est assez dingue, aujourd'hui je suis propriétaire d'un IMOCA et j'ai du mal à le croire. Jérém, qui est l'ancien boat captain du bateau, pendant qu'on naviguait sur le bateau, je parlais d'Éric Nigon comme le propriétaire, et puis il me regarde, il fait « Non, c'est toi le propriétaire, tu vois ». Et effectivement, je dis « Ah oui, oui, il faut que je me fasse à cette idée de dire « Ouais, je suis propriétaire d'un IMOCA », franchement, ouais, ça me paraît complètement fou, mais vraiment génial ». Et donc, les dernières semaines, ça a été toute la finalisation du process d'acquisition. Avec Eric, ça faisait un bout de temps qu'on parlait de cet achat. Vraiment, ça a été très concret ces dernières semaines, parce qu'il y a d'abord eu la sortie d'eau du bateau par les équipes de Clément Giraud, qui était en fait le précédent locataire du bateau. Sortie d'eau, expertise par un expert pour, toute la transparence qu'il faut au niveau de la transaction, de l'achat du bateau, donc expertise de la coque et du mât, et ensuite la remise en route, donc remise à l'eau et rematage, et puis la finalisation technique du bateau par une navigation test, on a été tirer quelques bords devant La Rochelle, parce que le bateau était basé à La Rochelle, donc on a fait tout ça depuis là-bas. Et à l'issue, une fois qu'on a vu que les éléments principaux fonctionnent correctement, on se serre la main, on signe l'acte définitif et on envoie le virement, quoi. Donc le virement, c'est pas le virement de bord, ça, c'est le virement bancaire. Et donc ça prend même pas une minute, je pense, à expliquer. Par contre, en termes de travail, c'est assez phénoménal, hein, parce que sortir un bateau, le faire expertiser, le remettre à l'eau, en termes de travail technique sur le bateau, c'est très lourd. Heureusement, les équipes de Clément ont bien joué le jeu, et puis je dirais que mon équipe aussi s'est mise en route et continue à se constituer. Donc aujourd'hui, le bateau, il est à Port-la-Forêt, son port d'attache. On l'a rapatrié de La Rochelle à Port-la-Forêt, c'était notre deuxième navigation. Et notre troisième navigation qui s'est achevée hier, c'était en fait de réaliser mon parcours de qualification en vue de la Bermude Mill Race. Donc je suis parti 48 heures avec un médiaman qui est Mathieu Ravier, Mathieu qui est responsable technique du bateau, qui s'implique dans le projet en tant que responsable technique. Et donc on est rentré hier à l'issue de ces 48 heures j'ai envoyé le parcours à la direction de course qui m'a dit Seb, on valide ta qualification pour la première course de la saison qui est la Bermude Mill Race. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que maintenant on va pouvoir s'atteler à une autre tâche qui est démonter les voiles du bateau pour faire disparaître les couleurs des sponsors qui ne sont pas les nôtres. Mettre une belle surface propre et disponible pour afficher les partenaires qui vont nous rejoindre. Alors effectivement, quand on achète un bateau, c'est assez proche de l'achat du processus d'achat d'une maison ou plus d'une maison que d'une voiture, je dirais, parce que dans le process, on a eu une lettre d'intention à l'effet d'Eric qui était exclusive, c'est-à-dire qu'il n'y avait que nous qui pouvions acheter le bateau. Donc ça, c'est un peu l'équivalent d'une promesse. Ensuite, il y a eu une sorte de compromis, comme pour une maison. Et puis l'acte définitif, donc ça se fait il y a eu trois étapes, je dirais, contractuelles. Et après, c'est sûr qu'il faut l'assurer. Alors, il faut l'assurer, on n'est pas obligé de l'assurer, mais c'est quand même mieux. Donc le bateau, il faut l'assurer, il faut travailler avec un courtier, prendre la bonne assurance, la prendre au bon moment, parce que c'est compliqué d'assurer ce type de bateau, il n'y a qu'un seul assureur qui le fait, et donc quand il atteint un certain quota de bateau, il arrête d'en prendre. Donc, voilà. Et puis, il y a les aspects aussi, formalité, effectivement, avec les affaires maritimes, les douanes. pour l'acte de francisation. On a un mois après la date de signature de l'acte d'achat pour envoyer tous les papiers en ordre aux affaires maritimes. C'est la première fois que je naviguais tout seul en IMOCA. J'ai jamais fait de solitaire en IMOCA de ma vie, tu vois. Là, les 500 000 que je viens de parcourir, alors c'est ce qu'on appelle du faux solo, parce que Mathieu était à bord avec moi, mais pour faire des médias, pour faire des images, pour assurer une veille visuelle, ça c'est autorisé, c'est-à-dire que quand moi je me repose, ben, de regarder qu'il n'y a pas... Tu vois, parce qu'on, quand on navigue comme ça à proximité des côtes, il y a beaucoup plus de dangers que quand on est loin, parce que le trafic maritime est plus important, essentiellement. Donc le risque de collision est plus important. Donc c'est vrai que souvent les organisateurs nous autorisent d'avoir ce qu'on appelle un médiaman, et souvent on prend des gens qui sont familiers avec le milieu du nautisme, et comme ça ils peuvent comprendre une route de collision, voilà, et pallier à ce comment dire, limiter les risques en fait, parce que l'idée c'est de faire naviguer les bateaux, de valider la qualification, les capacités du duo bateau-skipper, mais sans prendre de risques démesurés. Et voilà, là on a traversé pendant la qualification, on a traversé deux fois le rail des cargos. Il y a beaucoup de trafic. Il y a la Bermude Mill Race qui arrive très vite parce que c'est début mai. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la logique dans le temps. L'objectif, c'est de faire le Vendée Globe. Pour faire le Vendée Globe, il y a un processus de qualification. Il y a des courses qui sont déterminées comme qualificatives, dont la Route du Rhum, dont la Vendée Arctique, dont les Sables Vendée, toutes ces courses-là. Pour accéder à certaines de ces courses, notamment la Route du Rhum, il faut aussi se qualifier. Il faut se qualifier à la Route du Rhum. Et il se trouve que la Bermude Mill Race est qualificative à la Route du Rhum. Donc tout ça, c'est un peu comme un rétro-planning. Si je veux participer à la Route du Rhum, il faut que je me qualifie. Entre autres, ma solution, c'est la Bermude Mill Race. Et il se trouve que voilà, faire une course, je suis sportif. Hein, si j'achète un IMOCA, c'est pour faire des courses. Donc ça a un intérêt sportif pour ma préparation, c'est une course de préparation et ça a aussi un intérêt en vue de ma qualification aux différentes épreuves et notamment à la prochaine Route du Rhum. Donc voilà, la Bermude Mill Race, c'est une boucle au départ et à l'arrivée à Brest et c'est un parcours de 1200 milles où on va aller contourner le phare du Fastnet qui est au sud-ouest de l'Irlande et un waypoint virtuel qui pour le coup n'est pas encore positionné, qui sera dans le golfe de Gascogne, mais qui n'est pas positionné précisément parce que c'est un vecteur d'ajustement pour l'organisation en fonction de la météo, des timings, tout ça. Donc voilà, la course part de Brest. Je ne sais pas encore si le bateau sera amarré à Brest ou à Camaret parce qu'il y a des contraintes logistiques. L'organisateur a des difficultés pour accueillir tout le monde à Brest. Donc est-ce qu'on partira de Brest ou de Camaret aujourd'hui? Je n'ai pas encore la réponse. Voilà, et puis en amont de la course, il y a un petit village, des petites animations, il y a un village et des animations en lien avec l'épreuve. Alors, la date de départ, de tête, si je ne me trompe pas, c'est le 7 ou 8 mai. Je crois que le village commence le 4 ou 5. L'idée, c'est que la course, se déroule sur une semaine, de faire l'événement départ sur un week-end et l'événement arrivé sur le suivant, voire un petit peu avant pour les premiers. Voilà, le parcours fait 1200 milles, un IMOCA, ça parcourt 240 milles à 10 nœuds de moyenne. Enfin, un voilier, quand on va à 10 nœuds pendant 24 heures, on parcourt 240 milles. Donc nous, on peut aller un petit peu plus que 10 nœuds en moyenne. Donc voilà, ça va nous prendre une petite semaine, quoi. 5 jours. Là, on a fait 500 milles en 48 heures récemment. Donc ça va nous prendre 5 jours, un truc comme ça. Après, ça dépend beaucoup de la météo. Le One Ocean Summit, c'était il y a peut-être un mois ou un mois et demi, je dirais. Moi, ça m'a pas mal interpellé parce que je trouve ça intéressant que mon stade, c'est les océans, quoi. C'est la mer, donc c'est la planète, c'est un espace, de liberté inouïe, c'est un espace naturel, et voilà, donc je suis très conscient du fait qu'il faut le protéger, le préserver le plus possible, donc je trouvais intéressant de suivre les initiatives qui étaient relayées par le One Ocean Summit, Notamment toute la partie transport maritime qui, pour le coup, nous touche beaucoup en mer parce que des cargos, on en croise plein. Les routes maritimes fréquentées, c'est voilà, quand on parle d'import-export de marchandises qui partent d'une partie du monde pour arriver à une autre, bah, nous, sur l'eau, on la voit, hein, on leur parle au cargo, je les appelle en VHF quand on a des routes de collision, quand on a besoin de transmettre des informations. Parfois, ils viennent aussi nous secourir quand on est dans des positions... quand on est en difficulté. Et donc, ce transport maritime, c'est sûr que c'est une grosse source de pollution et d'impact sur l'environnement. Et moi, ça fait quelques années que je suis plusieurs projets, dont un projet nantais qui s'appelle Neoline, un projet basé à Nantes qui s'appelle Neoline. Là, récemment, j'ai suivi aussi le projet qui est coporté par Michelin ou Isamo, la Delle Gonflable, pour... de voiles gonflables pour équiper des cargos actuels. Neoline, c'est un peu différent, c'est la création de cargos à la voile sur des lignes particulières, donc un bateau qui sera spécialement conçu pour naviguer à la voile. Et il y en a d'autres, mais dont j'ai oublié les noms. Et donc du coup, bah voilà, suivre toutes ces initiatives qui sont très positives, parce que là, on parle d'un impact qui pourrait être très très important, quoi, en termes de préservation de la planète et de l'environnement. Bah, j'ai trouvé ça super de voir tous ces intervenants réunis autour de conférences, expliquer pourquoi ils le font, quelles sont leurs motivations, quels sont les leviers qu'ils ont pour réussir, pour arriver à leur fin. Et donc, moi, je trouve ce genre de mise en lumière extrêmement, extrêmement positive. Le One Ocean Summit, il a aussi mis en lumière des choses moins glorieuses dont je n'avais pas connaissance, en tout cas dont je n'avais pas conscience jusqu'à présent. C'était ce que l'être humain s'apprête à faire au niveau des fonds marins, c'est-à-dire la possible exploitation minière des fonds marins. Et très clairement, ça se trouve, peut-être là où je vais naviguer, sous moi, sous l'eau, il y aura des machines en train de creuser, forer, extraire, pour pouvoir satisfaire nos besoins de consommation collectif. Et ça, je trouve ça assez effrayant, quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Rien que l'image de me dire, attends, tu navigues sur l'eau, si on est dans un espace préservé, protégé, puis en fait sous l'eau, je ne sais pas à quelle profondeur ça aura lieu, mais enfin, j'espère que ça n'aura pas lieu, en fait. Je trouve ça assez effrayant, cette perspective-là. En faveur d'Handicap Agir Ensemble, je vais filer à la clôture de l'exposition de la réplique de l'éléphant à l'aéroport de Nantes. Cet éléphant, il a été créé en impression 3D à l'aide d'un artiste. Et il est exposé puis mis aux enchères au profit du fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. Donc, c'est la clôture de l'exposition aujourd'hui. Donc, j'irai représenter Handicap Agir Ensemble en tant que parrain, quoi. La semaine prochaine, on a le premier stage pilote avec l'IME Armor et les Glénans, donc sur l'île d'Ars. Donc moi, pareil, je vais y passer du temps, je vais y passer une journée avec les jeunes, avec les jeunes, et puis on va aller sur l'eau, on va aller découvrir le milieu marin, on va passer du temps ensemble. Donc ça va être assez chouette, hein. Franchement, à chaque fois, c'est des journées de parenthèse. En fait, c'est vrai que c'est des journées de parenthèse qui sortent du quotidien et qui font du bien, quoi. Pendant une journée, le téléphone, je peux pas m'en servir. Je suis là pour représenter, pour passer du temps avec Handicap Agir Ensemble, avec les jeunes de l'IME Armor, leur apporter ce que j'ai à leur apporter et aussi, eux m'apportent aussi beaucoup, quoi. Ces journées de parenthèse sont vraiment très agréables, donc ça va être sympa. Et dans le cadre de la Bermude Mille Race, j'espère que Paul acceptera mon invitation, parce que dans les petits événements qu'on a avant la Bermude, dans les événements qu'on a avant la Bermude Mille Race, il y a des runs en rade de Brest. Et Paul, qui a parrainé mon bateau lors de la solitaire du Figaro en 2019. en faisant notamment la descente de Nantes jusqu'à Saint-Nazaire avec moi, et ben j'espère qu'il acceptera mon invitation à venir naviguer sur l'IMOCA dans le cadre de la Bermude. Et ben alors, dans les prochaines semaines, on va poursuivre la préparation technique du bateau pour la Bermude Mill Race, la préparation sportive, et puis on va aussi poursuivre les discussions qu'on a avec différents potentiels partenaires, de l'entreprise qui souhaite avoir le nom du bateau jusqu'à l'entreprise qui veut intégrer le club de partenaires. Et on a aussi rajouté une petite case, je dirais, particulier. Si jamais vous êtes un particulier, que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez aussi le faire à travers notre association. Donc voilà, on va poursuivre aussi tout ce travail-là, pouvoir organiser la visibilité de chacun chacune sur le bateau, parce que comme je le disais tout à l'heure, on démonte les voiles, donc ensuite on pourra afficher les logos des partenaires qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager ce podcast et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.